Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes écrit, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Sois vigilant et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai vers toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Toutefois, tu as quelques noms de Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses enfants. De celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. qui allonge de l'assemblée qui est à Philadelphie, écrit : voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être lui, et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les fais venir et je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds. Ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma passion, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu. Et mon nouveau nom, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée écrit : voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et que tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux et le misérable, et pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Si des lettres pour cette assemblée, nous trouvons dans ces chapitres 2 et 3, ainsi que leur valeur d'avertissement pour tout le temps de l'histoire de l'Église, où sont des choses bien connues. Ce sont les messages que donne à Jean pour les sept assemblées, de celui qui s'est présenté comme marchant au milieu des sept lampes d'or et qui tient dans sa droite les sept étoiles. La signification même de ces titres est donné par le Seigneur. Sept lampes d'or, cette assemblée, et ce chiffre 7, le chiffre de la plénitude, nous montre ainsi que c'est à l'assemblée tout entière que les messages sont envoyés. Le Seigneur marche au milieu des sept lampes. Il prend connaissance de ce qui se passe dans chacune des assemblées qui constituent l'assemblée entière. Il a dans ses mains, dans sa main droite, dans la main de sa puissance, dans la main de sa protection aussi, les sept étoiles, un symbole de la responsabilité au milieu des assemblées, une responsabilité à laquelle il ne saurait être fait face par les moyens de l'homme, mais si le Seigneur tient ses étoiles dans sa droite, cela indique tout à la fois qu'il a des droits à exercer, à revendiquer, c'est sa possession, mais en même temps qu'il les tient, ils sont là, soutenus par sa puissance. S'il n'y a aucune ressource en l'homme, toute ressource reste en lui. Cette lettre, cette assemblée, disons bien, une prophétie quant au déroulement de l'histoire de l'assemblée sur la terre. Et à cet égard, nous pouvons indiquer d'abord, sommairement, à quoi cela correspond. Voilà Éphèse. Premier siècle, les deux premiers siècles peut-être, l'histoire de l'Église, le tout commencement, marqué par des œuvres, marqué par le travail, par la patience, par tout ce qui normalement doit découler de l'amour pour le Seigneur, mais avec pour le Seigneur cette triste constatation que le ressort fait défaut, on marche sur sa lancée, l'amour, le premier amour a été abandonné. Et voilà qui est sensible au cœur du Seigneur plus que toute autre chose. Que demande-t-il? Un amour qui réponde au sien. Et cette tiédeur de l'assemblée ne pouvait que s'accentuer si elle était laissée à elle-même. Mais le Seigneur intervient dans sa grâce et il permet que les affections soient réveillées par des moyens sans doute douloureux. Il y a la persécution. Et qui touche là l'assemblée de Sardes correspond au siècle de persécution, deuxième, troisième siècle de l'ère chrétienne, persécution de la part du pouvoir civil, se conjuguant avec la haine des juifs qui n'ont pas les armées, une tribulation que le Seigneur permet mais qui mesure, dont il annonce à l'avance la durée, 10 jours, 10 périodes. Et l'Église se trouve réveillée. Il y a un renouveau des affections. Il y a une fidélité qui ira jusqu'à la mort. Et les encouragements pour une telle situation ne sont dispensés par le Seigneur avec grâce. Oui, sois fidèle, sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Les contrastes de mort et de vie remplissent cette lettre. Jusqu'à la récompense donnée au vainqueur, il ne souffrira pas la seconde mort. Qu'est-ce que la mort du corps? Grand est le privilège de ces martyrs pour la foi. Il y a pour eux la récompense, et il y a dès maintenant une certitude du salut saisie. Ils sont ancrés là-dedans. Qu'est-ce que les souffrances ici-bas, à côté de pour le fidèle, à côté de ce qui attend leurs persécuteurs? Pour eux, ils ne connaîtront pas cela. Ils ont été sauvés à prix. Ils ont pour eux la vie éternelle. Les persécutions cessant, l'Église qui avait trouvé de la part du pouvoir civil une animosité se traduisant par des persécutions se trouve, pour ainsi dire, de façon assez soudaine, sous la protection au contraire de ses autorités. Historiquement, c'est l'avènement de Constantin. C'est ce qui marque au point de vue moral. Ah, c'est que, aussitôt, l'Église recherche la paix de ce monde. Mais sous la persécution, le Christ seul est la ressource. Et maintenant, le monde qui a perdu son caractère d'hostilité et recherché comme puissance protectrice. Et le résultat, c'est que, ne réalisant plus son caractère d'étrangère dans ce monde, l'Église perd cette fidélité retrouvée au cours des persécutions. C'est l'histoire de Pergame, ce sont ces premiers siècles qui ont suivi, dans lesquels le pouvoir civil, l'autorité des empereurs, s'est tondé en protection sur l'Assemblée, mais en même temps réclamé son influence, voulait exercer son influence. Et finalement, l'Assemblée se trouve non plus étrangère dans ce monde, mais ayant établi son habitation. Ce monde qui est caractérisé comme l'habitation de Satan. Là où Satan habite, voilà où l'Église fait elle-même son habitation. Et alors, il peut y avoir que défiance, abandon. Il y a la fornication, c'est-à-dire l'abandon des relations de l'épouse avec l'époux. Il y a l'idolâtrie. Il y a des doctrines perverses qui étaient rejetées avec vigueur par les chrétiens des premiers temps. Et qui maintenant sont tenus comme doctrines reçues par certains. Le Seigneur est obligé de s'adresser à cette église de Pergame avec célérité. Il s'est présenté comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, l'instrument du jugement, et il annonce: repens-toi. Autrement, je combattrai contre eux, contre tous ceux qui, au milieu de toi, suivent ainsi des voies détournées par l'épée de ma bouche, l'épée aiguë à deux tranchants. Avec les siècles qui suivent, le mal ne fait que s'aggraver. Et c'est l'histoire de Thyatire, comme nous l'avons remarqué, la lettre la plus longue, correspondant à la période la plus longue de l'histoire des villes. Il s'agit du déroulement de cette histoire depuis les premiers temps du Moyen-Âge jusqu'à la venue du Seigneur. Mais pour la première fois, nous trouvons là son retour annoncé. Et nous avons là, dans cette église qui s'est de plus en plus détournée, un mélange étrange, facilité de foi et d'amour véritable, et en même temps de corruption, de soif d'autorité. À Pergame, on cherchait la protection du monde, à Thyatire. L'Église prétend exercer une autorité sur ce monde. Au milieu de cet état de choses, un résidu, et pour la première fois, nous trouvons mention là d'un cercle particulier auquel le Seigneur prête grande attention et à qui il donne des instructions et des encouragements tout spéciaux. Tiens ferme, tenez ferme, jusqu'à ce que je vienne. La promesse, l'exhortation même que nous avons trouvée dans notre lecture de la lettre à Philadelphie se retrouve à peu près là, tenir ferme jusqu'au retour du Seigneur. Tenir ferme, c'est-à-dire trancher sur toute cette corruption, toute cette soif d'autorité, toute cette apostasie naissante qui caractérise Thyatire par l'attente du Seigneur, son attachement à sa personne. Et les promesses me sont données. Si d'un côté, le Seigneur parle à Thyatire avec tous les caractères de jugement encore plus nets que prononcés pour Pergame, s'il se présente comme celui dont les yeux sont comme le flamme de feu, discernement complet de toutes choses, et les pieds semblables à des reins brillants, comme celui qui exercera le jugement dans sa marche au milieu de l'assemblée. Par contre, à l'égard de ce résidu fidèle, les promesses sont pleines de grâce. Ils n'ont pas voulu l'autorité, ils n'ont pas voulu de cette soif d'autorité, ils n'ont pas voulu de la corruption. Ils seront établis en puissance avec le Seigneur, et le Seigneur leur donne pour leur cœur, comme récompense suprême, sa personne même, connue, Christ, espérance. Je lui donnerai l'étoile du matin. De ce mélange, déjà, dans les temps les plus sombres du Moyen-Âge, se détache donc un noyau fidèle. Le Seigneur va détacher ainsi des résidus selon son cœur, qui seront personnifiés par les assemblées de Sardes et l'assemblée de Philadelphie. Ça correspond historiquement à ce qui est devenu ce qui était né de la Réformation, le protestantisme, mort
descendu. De ce milieu-là, tirez-vous un résidu, caractérisé au contraire par l'attachement au Seigneur. Peu de force, mais l'attachement de cœur au Seigneur. Et les récompenses sont, les encouragements sont à la mesure de cette faiblesse et cette fidélité. Si la faiblesse, le vainqueur sera établi en puissance, colonne dans le temple de Dieu, et privilège particulier d'intimité, en même temps que témoignage reconnu de façon publique. La promesse du retour du Seigneur est renouvelée de façon présente. Je viens bientôt de façon directe. Ah, nous voudrions bien que la prophétie s'arrête là, n'est-ce pas? Mais il y a un dernier tableau. Il y a l'Odyssée. Il y a cet état de tiédeur qui devient pour le Seigneur comme un sujet de ferment, et qui appelle de sa part les répréhensions les plus énergiques. Nul ne saurait se targuer d'être Philadelphie sans démontrer par cela même qu'il ne l'est pas. Mais il y a le caractère philadelphien que nous devons avoir à cœur de porter. Il y a un caractère laodicéen qui est à craindre, qui est à redouter, qui nous menace, et qui est déjà trop emprunt sur nous, hélas, et sans doute de notre étude d'aujourd'hui, c'est bien là le point essentiel, le point le plus important, que nous recevions ces exhortations et ces exemples à rester attachés au Seigneur de notre cœur, et que nous soyons gardés de cette tiédeur. Il y a là un sujet très actuel, un sujet qui, riche en méditation, et nous exprimons le souhait que sans nous laisser attarder par trop de digressions qui peuvent être pleines d'intérêt par ailleurs, nous consacrions à ce point central notre méditation d'aujourd'hui, tout le temps qu'elle requiert. Encore un dernier mot. Ainsi, ces 16 lettres sont une prophétie remarquable de la succession des états principaux visibles de l'Assemblée dans son histoire sur la terre. Il y a là, dans chacun, cela a été fort souligné, l'année dernière, il y a là, dans chacune de ces lettres, quelque chose d'actuel. Et en particulier, et c'est ce qui lit de façon spéciale Philadelphie à l'Odyssée, Éphèse à l'Odyssée, cet abandon du premier amour qui marque le tout début du christianisme est une empreinte laissée sur toute son histoire, et c'est de là que découle toutes les différences qui suivent. Et c'est à cela qu'avant tout nous sommes appelés à retrouver ce premier amour, retrouver, sans doute, dans une mesure, mais dans la faiblesse, la philosophie.
De l'esprit, c'est un symbole de la perfection, de sa plénitude, dans l'épître Cathyre, le Seigneur parlait comme le Fils de Dieu, comme le Fils de Dieu, ce qui implique qu'il y a le Père, et le Fils de Dieu est venu révéler le Père ici-bas. Mais ici, c'est celui qui a les sept esprits de Dieu, il complète, on peut dire, ce personnage divin, si on ose parler ainsi. La plénitude des sept esprits sont là, mais c'est la plénitude de la déité. La plénitude de la déité, et qui s'est plus habiter corporellement dans la personne du Fils de Dieu venu sur cette terre, de Dieu manifesté en chair. Et c'est celui-là qui, présenté comme quelqu'un de semblable au Fils de l'homme dans sa description au premier chapitre, nous apparaît ainsi maintenant revêtu de toute la majesté, l'autorité, la puissance de la Déité, le Fils de Dieu, les sept esprits de Dieu, la plénitude de la connaissance, de la sagesse, de la vérité, le Saint-Esprit lui-même. Et alors, il a en main les sept étoiles, exactement dans le chapitre premier, il nous était dit qu'elles étaient dans sa droite. Cette étoile, c'est-à-dire les anges des assemblées, ou l'assemblée juste dans sa responsabilité, dans ses responsabilités diverses, graduées selon que le Seigneur a donné aux uns ou aux autres, mais il s'agit toujours de ce qui devait apporter le message divin avec fidélité au milieu de la nuit de ce monde, de telle manière que les lampes d'or puissent briller. Eh bien, il est devant sa robe et il semble dire, mais ce messager, mais cette étoile de Sarne, quel éclat brille-t-elle, cette étoile? Un éclat faux. C'est un éclat faux, trompeur. Et c'est moi, alors, qui reprends tout ce qui était représenté par ces étoiles que j'avais dans ma droite, mais que je reprends, pour ainsi dire, en totalité. Et je reprends dans ma parfaite connaissance de toutes choses, du présent, à venir, comme du passé, je suis alpha et oméga, et je connais tes œuvres, tu as le nom de vivre et tu es mort. Pourquoi je parlais d'un éclat faux. Derrière une apparence, derrière un formalisme qui peut impressionner, derrière des œuvres qui peuvent être extérieurement très grandes et qui ont une valeur en elles-mêmes, je les connais, je sais ce qu'elles valent, eh bien, il y a la mort. Il n'y a peut-être rien de plus solennel dans tous ces deux chapitres que ce qui est attribué ici à ça. Avoir le nom de vivre dans ce nom, et elle le reçoit dans ce monde, mais derrière cela, la mort. La mort parce que si des vérités remises en lumière, temps voulu, pendant la réformation, des vérités tout à fait remarquables, sont conservées dans leurs lettres, la réalité n'y correspond pas dans le cœur de ceux qui devrait vivre de la vie du Christ, de la vie nouvelle, mais qui en réalité sont insensibles à, ou l'ensemble plutôt, le monde insensible aux droits du Christ, à l'amour du Christ, à tout ce qu'il a fait, à tout ce qu'il est. C'est là la solennité la position de Sardes qui a le nom de Dieu et Dieu va. Alors, ne regardons pas seulement à autrui et aux institutions ecclésiastiques tel ou tel ensemble religieux de la chrétienté en dehors de Thyatire, mais pensons à nous-mêmes. Pensons à ce que nous avons reçu et prenons garde de ne pas avoir l'extérieur d'une orthodoxie dans la lettre, dans la conservation de l'écriture, alors que les cœurs ne sont pas animés de ce que précisément cette écriture, cette parole qui nous a été conservée doit produire dans le cœur. Au chapitre 3, au premier verset, il y a d'un côté un grand encouragement et d'un autre côté il y a quelque chose de triste. Le grand encouragement consiste en ceci: voici ce que dit celui qui a les sept esprits. Quand on pense à ce qu'il est dit de Sardes, elle a le nom de vivre, un bruit de vivre, une réputation de vivre, mais en fait, c'est un corps mort. Aux yeux de Dieu, il n'y a plus de vie. Voilà ce qu'il en est de l'Église à ce moment-là. Mais en effet, nous tenons compte de l'exhortation qui vient de nous être faite, combien tout cela est écrit pour nous tous, pour tout témoin dans tous les temps. Nous avons bien besoin de nous demander jusqu'à quel point nous sommes véritablement vivants pour Dieu. Il pourrait être dit aussi de nous: tu as le nom de vivre, le bruit, la réputation de vivre, mais tu es mort. Tout cela est très sérieux, très solennel. Mais il y a l'encouragement, nous disions. Le Seigneur est celui qui a les sept esprits de Dieu. Le Saint-Esprit est présenté toujours dans sa plénitude. Indépendamment de l'état d'extrême faiblesse, il y a du côté de Dieu ce qui ne change pas. Le Saint-Esprit, au temps historique représenté par Sardes, aujourd'hui, dans de très grandes faiblesses, l'Esprit de Dieu est aussi puissant aujourd'hui qu'il ne l'était au matin de Pentecôte. Du côté de Dieu, aucun changement, aucune variation, pas l'ombre d'une variation. Il est toujours le Seigneur, celui qui a les sept esprits de Dieu. Et en cela, il y a non seulement un grand encouragement, mais un encouragement suprême. Le Saint-Esprit n'a absolument pas varié dans sa puissance. Qui est-ce qui a varié? Qui est-ce qui a changé? C'est nous-mêmes, étant devenus de pauvres, de très faibles témoins. C'est du reste ce qui caractérise Philadelphie. Mais d'un autre côté, il est dit qu'il est celui qui a les sept étoiles. Les sept étoiles. On vient de citer le cas d'Éphèse. À Éphèse, il est dit: voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite. Nous avons donc l'autorité du Seigneur, mais du Seigneur qui a dans sa droite les 7 étoiles, les anges représentant les assemblées. Ils sont dans la main du Seigneur. Autrement dit, une autorité leur est conférée de la part du Seigneur, et dans l'exercice de cette autorité, ils sont dirigés par la droite, par la main du Seigneur. Il y a donc l'autorité du Seigneur, et puis une autorité conférée à certains individus, et qui sont dirigés par le Seigneur, par la main du Seigneur, dans l'exercice de cette autorité. À Sardes, les choses ont changé. Il est dit que le Seigneur a les 7 étoiles. Il a. Le verbe avoir est à souligner, il a une force particulière. Il a les 7 étoiles et il n'est rien d'autre. L'Esprit de Dieu veut nous rendre attentifs à ce fait que toute autorité est dans le Seigneur. Toute autorité est dans le Seigneur. Un auteur a dit que l'autorité, à ce moment-là, s'est ramassée, s'est concentrée dans le Seigneur. Un autre auteur a dit ceci, que c'est comme si l'autorité, le principe même de l'autorité, s'était réfugié dans le Seigneur. Le Seigneur est celui qui a toute autorité. Et voilà ce que nous devons retenir quant à cette présentation du Seigneur vis-à-vis de l'Assemblée à Sardes. Mais nous le répétons, il y a un très grand encouragement dans le fait que le Seigneur a toujours les 7 Esprits de Dieu, la plénitude de l'Esprit de Dieu, la toute-puissance de l'Esprit de Dieu, qui n'a absolument pas varié aujourd'hui encore. Et d'un autre côté alors, un appel à nous tous à reconnaître implicitement cette toute autorité de notre Seigneur.
On dit selon Matthieu, où nous avons la première mention de l'Assemblée par la bouche même du Seigneur, nous entendons sa voix déclarer « Je bâtirai mon Assemblée ». En accord avec ce que nous venons d'entendre, quand le Seigneur bâtit son assemblée, il peut ajouter que les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. Donc, nous avons à la Pentecôte le Saint-Esprit qui descend et qui constitue cette assemblée. La construction commence, si j'ose m'exprimer ainsi. Voilà l'agent fondamental de la construction, le Saint-Esprit. Naturellement que le Seigneur se servira de différents éléments, premièrement des apôtres, pour accomplir ce travail. Et nous pouvons en deux mots remarquer que l'apôtre Pierre, le premier mentionné dans les Actes des Apôtres, lors de la constitution et du début de l'Assemblée, nous pouvons remarquer que le ministère de cet apôtre a pour thème ou pour caractère général de faire suivre le Seigneur par les croyants. Les croyants sont vus le suivant et le suivant dans la direction céleste. L'apôtre Paul, lui, avait un autre caractère dans son ministère. Son ministère consistait essentiellement à poser les fondements de l'Assemblée. Et dans le chapitre 3 de la première aux Corinthiens, il dit qu'il peut écrire comme un sage architecte. J'ai posé le fondement. Il fallait forcément une architecture céleste, sage. Et un fondement est indispensable pour la solidité de l'édifice. Tout repose sur lui. Et nous savons bien que cet apôtre a été choisi par le Seigneur pour la révélation de l'Église. Mais dans cet épître, je relève simplement le fait que comme un sage architecte, il pose le fondement.
C'est extrêmement important. L'apôtre Jean, lui, a un autre caractère dans son ministère. Tous ses ministères contribuent à l'édification de cet édifice, l'assemblée. L'apôtre Jean, lui, voit l'assemblée suivant le Seigneur sur la terre. Sur la terre. C'est un témoignage établi dans ce monde. Et ce témoignage doit être rendu à la gloire du Seigneur. Alors, il y a un fait extrêmement solennel qui s'y rattache. Si d'un côté, le Seigneur bâtit son assemblée, une assemblée qui, selon la parole, demeurera jusqu'à sa venue, peut-être dans une petite expression, numérique au moins, nous pouvons quand même constater que le fait solennel, c'est que lorsqu'elle est confiée à la construction ou à la contribution de l'homme pour son édification, immédiatement la responsabilité se présente. Et comme tout ce que Dieu a confié à l'homme, l'homme l'a gâté, nous devons faire la triste constatation qu'il y a la menace qu'elle peut être jugée et plus encore qu'elle peut être ôtée. Nous avons cela dans la première assemblée, mentionnée dans les sept. Elle peut être jugée et ôtée. Combien ces deux choses doivent nous mettre en éveil, toucher nos cœurs et nous montrer la solennité qu'il y a d'être un membre de cette assemblée, d'être une particule de celle-ci. Car nous savons bien que ce qui est confié à l'homme dans toutes les économies, l'homme n'a pas su le garder. Mais il reste le fait consonant, qui restera jusqu'au bout, comme déjà relevé, que ce que le Seigneur construit, quand l'agent fondamental de l'action est le Saint-Esprit, cela demeurera jusqu'à sa venue. Une remarque pratique maintenant. Donc l'assemblée peut être jugée et même supprimée, ôtée. Remarquons que dans le cours de l'histoire de l'Église sur la terre, la chrétienté, elle n'a pas réalisé ses graves solennités. Elle s'est mise à juger elle. Jamais nous ne voyons dans l'Écriture que l'Assemblée juge. Elle peut exercer la discipline. Elle le fait au nom du Seigneur. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'est le Seigneur qui agit par son moyen. Mais l'Assemblée en elle-même, ce qu'elle est elle-même, elle peut être jugée, mais n'est jamais appelée à le faire. C'est très différent. Et nous connaissons bien que non seulement l'Assemblée s'est attribuée, ou plutôt l'Église, disons l'Église professante, s'est attribuée cette autorité, devenant ainsi un tribunal agissant jusque sur les autorités divines. Au cours de son histoire, chose qui n'est pas de sa compétence, nous voyons par contre ici, comme nous ne venons de l'entendre, des points positifs et des encouragements déjà dans les premiers mots de ceux qui sont adressés à l'Église de Sardes.
Alors l'Esprit de Dieu, la plénitude de l'Esprit, discerne derrière les apparences de vie, le nom de vie, la réalité, et qui est la mort spirituelle. Et celui qui a les sept étoiles et qui peut discerner ce qu'il en est et constater, car au fond c'est cela dans plupart des églises, sauf Smyrne et Philadelphie, constater que l'étoile a comme glissé de sa main. Je veux dire que l'Assemblée et le représentant de l'Assemblée, l'ange de l'Assemblée, a toujours tendu à se soustraire à l'autorité du Seigneur, à laisser négliger les droits du Seigneur et à se faire une position en lui-même, le cas particulièrement pour s'y dire, le cas aussi pour ça. Alors le Seigneur dit, j'ai les étoiles. Moi, j'ai cette autorité que mes délégués n'ont pas su garder à ma gloire et selon moi. Et alors, dans cette fidélité à lui-même, aux promesses de sa parole, comme aux enseignements relatifs à la marche de l'Assemblée ici-bas, il met de côté moralement déjà tout ce qui n'a pas de vie, tout ce qui est mort. Des œuvres sans doute, et peut-être de grandes œuvres, mais des œuvres mortes. Question des œuvres mortes dans les livres des Hébreux. Et il voit alors, au milieu de cet état de choses, un reste. Il y a toujours un résidu. Il y a toujours, par la grâce de Dieu, il y a eu dans tous les temps des témoins obscurs ou bien visibles, bien en évidence, dans la sagesse de Dieu, toujours des témoins que Dieu a conservés, et des croyants, et des fidèles. Et alors, il a fermé ce qui reste. Tu ne vois pas qu'il y a un résidu au milieu de toi de fidèles. Il a fermé cela. Il s'en va mourir peut-être, mais je suis là. Et le Seigneur conservera la vie là où elle est. Tu as le nom de vivre, mais tu es mort, et pourtant il y a des âmes vivantes parmi toutes les autres. Et cela, je les maintiendrai en vie. Mais le reste, tout ça, on va mourir. Il ne sera plus question de toi lorsque je viendrai comme un voleur. Tu n'auras pas aidé. Mais alors, il y a les quelques noms à Sardes, et on va souiller leurs vêtements, leurs marchons avec moi, en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Sans revenir en arrière, on peut rappeler les deux grandes fonctions de l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui prend de ce qui est à Christ et qui nous le communique, qui agit, qui opère dans l'Assemblée, qui distribue, qui nourrit. Dans ce cas, le « nous » est toujours employé. Béni soit le Dieu éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, et il le fait par le Saint-Esprit qui nous unit les uns aux autres, formant ainsi le corps de Christ. Quand il s'agit des sept esprits de Dieu, nous pensons aux chandeliers, aux sept lampes qui éclairent vis-à-vis de lui. Ce n'est plus l'Esprit qui se plaît à nous nourrir de Christ, à déployer devant nous toutes les grâces du Seigneur, à nous parler de toutes ses gloires, mais c'est l'Esprit dans sa septuple plénitude qui prend connaissance, chaque chose étant bien mise à sa place, chaque chose prenant son vrai nom, toute chose étant mise en pleine lumière. Dans ce même livre, au chapitre 4, il y a les sept esprits de Dieu qui sont comme des lampes qui brûlent, des flambeaux qui brûlent devant le trône pour prendre connaissance de tout ce qui est lié avec ce trône. C'est donc une chose bien différente de l'esprit que nous connaissons pour la consolation de l'Église, le consolateur qui nous a été donné, qui est avec nous éternellement. Ici, c'est une fonction judiciaire que l'Esprit accomplit dans sa septuple plénitude, la lumière brillant pour prendre connaissance de tout ce qui ne répond pas à l'éclat, à la gloire du trône. D'un autre côté, l'autorité. Comme on vient de l'entendre, celui qui a les sept étoiles. Nous nous souvenons que le Seigneur dit, après sa résurrection, comme fils de l'homme, toute autorité m'a été donnée au ciel comme sur la terre. Dieu a établi toute chose sous ses pieds. Et cette autorité, il l'exerce maintenant en vue de prendre connaissance de l'état de l'Église et en vue de son jugement. Quelle chose solennelle! De ces sept églises, trois sont donc historiquement écoulées, ont pris fin, chacune découlant l'une de l'autre, on nous l'a bien rappelé tout à l'heure. Les quatre dernières, qui également historiquement découlent l'une de l'autre, coexistent actuellement, puisqu'elles vont jusqu'au retour du Seigneur. La promesse à Thyatire, au résidu de Thyatire, au sujet de Sardes aussi, je viens comme un voleur, certes, mais je viens bientôt à Philadelphie, et enfin, Laodicée. Et on pourrait donc, et on peut trouver aujourd'hui, dans la vaste chrétienté, ces différents caractères représentés, puisqu'ils vont jusqu'au bout. Il n'est pas besoin d'être plus précis dans la désignation, mais ce qui a été dit tout à l'heure permet de les identifier. Il y a donc aujourd'hui quatre représentations de la chrétienté, et chacune comporte son résidu. Il y a donc la chrétienté professante, et puis les chrétiens véritables, c'est vrai. Mais dans la chrétienté professante, il y a les correspondants de ces quatre églises. Et ce qui est saisissant, c'est cette parole du Seigneur, l'a dit à propos des heures, mais je connais. Chacune des sept églises commence ainsi. L'adresse à l'ange, je connais. Si on pense à 2 Timothée 2, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Il connaît les personnes, mais il connaît aussi les œuvres qui caractérisent les personnes. Je connais. Et alors ici, ces œuvres, elles n'ont pas été trouvées parfaites. Parfaites comment? Quel est le test? Qu'est-ce qui rend une œuvre parfaite? Devant mon Dieu. Voilà le vrai point de comparaison. Est-ce qu'une œuvre soutient la présence de Dieu? Est-ce qu'elle est accomplie pour lui et devant lui? Voilà le point de comparaison. Et en effet, c'est bien ce qui met les choses en évidence, parce qu'il peut y avoir dans un milieu chrétien des œuvres très, très, très brillantes, spectaculaires, mais est-ce qu'elles supportent cette lumière de Dieu? Tout est là.
Avec un état de la chrétienté ou d'une partie de la chrétienté que l'on peut désigner sous le terme général de protestantisme, ou plus exactement d'église protestante, église sortie de Thyatire. Ce qui nous confirme dans la vérité de cette interprétation, c'est simplement ceci, c'est que vous ne trouvez rien à Sardes, qui rappelle Thiapire, ou ce qui était reproché à Thiapire. Thiapire qui d'ailleurs avait conservé l'écriture, la parole, mais qui avait ajouté, qui mêlait le christianisme de l'idolâtrie, toutes sortes de choses que, sur lesquelles il n'y a pas à revenir. On ne trouve pas cela, ça. Tu as reçu des choses particulières. Souviens-toi comment tu as reçu et entendu. Reçu non pas des révélations nouvelles, mais la révélation est complète depuis le temps des apôtres, mais des lumières spirituelles et des vérités longtemps négligées, oubliées, mises de côté, ont été remises en lumière, en particulier la justification par la foi, pour vous parler de ceci, et la pleine valeur de l'écriture. Alors, c'est cela que tu as reçu. Et quel travail l'Esprit de Dieu accompli pour cela, au 7e siècle particulièrement. Eh bien, tu avais bien reçu, tu avais reçu, tu es particulièrement privilégié. Qu'as-tu fait de tout ça? Alors, souviens-toi, reviens en arrière. Le Seigneur est très sévère à l'égard de ça. Car l'imitation de la vie, alors que c'est l'homme naturel, c'est l'homme irrégénéré qui agit, qui s'empare des vérités bibliques, qui les soumet à son raisonnement, à son appréciation, à son jugement, à l'esprit de l'homme, indépendant de Dieu, qui retient certaines choses, qui en écarte d'autres, et qui, en somme, rationalise, intellectualise de telle manière ce qui est la révélation vivante de Dieu, avec au centre la personne vivante du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Et alors, le Seigneur est obligé de dire, souviens-toi. Et souviens-toi donc comment tu as reçu, entendu. Tu as entendu de petites grandes choses et tu en as fait un objet d'étude, de morale d'autre part. Extraordinaire comme la doctrine chrétienne aboutit si facilement dès que l'homme est là en action, cette révélation merveilleuse et qui met l'homme de côté, et à cause de cela, aboutit à une morale pure et sainte, une morale telle que les sages de ce monde finalement ont pu en élaborer. Et c'est là, on peut bien le dire, que le protestantisme, d'une manière générale, avait conduit les choses d'une telle manière que, lorsqu'a eu lieu le grand travail à nouveau, non plus celui de la réformation pour mettre en avant la justification de la foi et l'autorité des Écritures, mais pour réveiller le peuple de Dieu et lui remettre en valeur ce que le réformateur avait donné, par l'Esprit de Dieu, mais pour annoncer, d'autre part, la venue prochaine du Seigneur Jésus, l'état dans lequel se trouvait la chrétienté tout entière à ce moment, était quelque chose de déplorable, malgré de très grandes œuvres extérieures. C'est là l'état de ça. Il se continue jusqu'à maintenant, et encore une fois, il ne nous appartient pas à nous de porter un jugement sur ce que font d'autres. C'est le Seigneur qui le fait. C'est celui qui a les sept esprits de Dieu, et qui connaît le fond des cœurs. Il Mais nous sommes mis en garde contre ceci, c'est que, ayant reçu beaucoup, et reçu beaucoup de lumière, on peut tomber dans un état dont il peut être dit, tu as le nom de vivre et tu es mort. Quelle chose. Se parer de la vie et en réalité être mort. Alors sois vigilant. Alors réveille-toi. Alors repens-toi. Repens-toi. Garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, alors. Mais si tu ne veilles pas, mais tu seras. Tu tomberas dans le sort commun à tout un monde et demi de moi. Je viendrai sur toi comme un voleur dans la nuit. C'est exactement ce que nous trouvons dans le chapitre 5 de l'épître, la première épître aux Thessaloniciens, quand le Seigneur, parlant d'une manière plus générale, encore l'apôtre, parlant d'une manière plus générale de ce qui attend ce monde, peut dire, quand ils diront paix et sûreté, une subite destruction viendra, mais alors, il parle alors de venir comme le voleur dans la nuit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas la nuit et les ténèbres. Alors voilà les quelques noms, à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Le résidu, il y a toujours un résidu. Alors ceux-là auront échappé à ce jugement qui tombera sur toi. Prophétiquement, nous voyons là ce qui aura son accomplissement après l'enlèvement de la véritable Église, ceux qui seront pris au ciel, ceux qui auront la vie. Mais ensuite, le jugement de tout ce qui n'aura été que forme extérieure, nom de vivre, pour aboutir à la destruction de la Babylone de l'Apocalypse.
Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience et tu ne peux supporter les méchants. Je connais tes œuvres et il y avait donc bien des choses appréciables et le Seigneur les appréciait. Acatir, au verset 19, je connais tes œuvres, là aussi bien des choses appréciables, ton amour, ta foi, ton service, ta patience, et même tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Et le Seigneur appréciait et il apprécie cela. Quant à Sardes, je connais tes œuvres. Et puis, que mettaient en évidence ces œuvres, tu as le nom de vivre et tu es mort. Et enfin, à Philadelphie, verset 8, je connais tes œuvres, c'est tout, très bref. Comme à ça, je connais tes œuvres, mais à la fin du verset 9, il est dit, ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Les œuvres accomplies par Philadelphie étaient la preuve de l'amour du Seigneur pour elle. Quant à Sardes, les œuvres accomplies étaient tout simplement la démonstration que Sardes était un pauvre corps mort. Je connais tes œuvres, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. On peut se demander aussi si ces œuvres sont déclarées non parfaites devant Dieu, parce que, au jour de la Réformation, c'est une œuvre merveilleuse qui a été accomplie. C'était l'œuvre de Dieu, donc une œuvre parfaite. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et l'on peut se demander si l'Esprit de Dieu ne nous rend pas attentifs à ce fait que, au cours des années, au cours des siècles qu'on suivit, les œuvres accomplies n'ont plus du tout été en rapport avec l'œuvre parfaite de Dieu accomplie au jour de la Réformation. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il y a aussi cette autre pensée en rapport avec l'Église, ce que le Seigneur a fait pour l'Église, comment le Seigneur voit son Église, comment Dieu la voit parfaite en Christ. Et voici des œuvres qui sont accomplies, qui ne sont pas du tout en rapport avec cette perfection dans laquelle Dieu discerne de son Église en son Fils bien-aimé. Tes œuvres ne sont pas parfaites devant mon Dieu. Encore un mot en rapport avec l'exhortation à la vigilance. Sois vigilant et affermis ce qui reste. N'est-il pas frappant de penser que les exhortations que le Seigneur Jésus a données à ses disciples réunis d'après l'évangile selon Marc, l'évangile du parfait serviteur, l'évangile du service, n'est-il pas frappant que ces exhortations aient trait à la vigilance? C'est ce que le Seigneur dit à la fin de Marc 13, dernières exhortations à ses disciples réunis. Veillez donc, ce que je vous dis à vous, je le dis à tous, veillez. Pourquoi est-ce que le Seigneur donne cette ultime exhortation en rapport avec la vigilance? Parce qu'il savait qu'au cours des siècles, son Église ne veillerait pas. Et c'est ce qu'on voit à Sardes. Et cela fait ressortir, alors d'autant plus, étant donné l'état mort de Sardes, l'importance de cette exhortation, soit vigilant.
Un fait historique important souligne bien les privilèges qu'avait reçu Sardes. Souviens-toi comment tu as reçu. En effet, la découverte de l'imprimerie ou du procédé par Gutenberg a lieu en 1450, au moment où va naître Luther en 1483, qui verra la Bible imprimée pour la première fois en 1505. Quelle sagesse de la part de Dieu! Quelle puissance aussi pour placer à ce moment-là la découverte de l'imprimerie qui allait permettre la diffusion de la parole de Dieu comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Souviens-toi comment tu as reçu. Au moment de la Réformation, voilà cette découverte importante qui permet de souligner toute la grâce que Dieu avait donnée à ce moment-là et en particulier avec Sardes qui était la dépositaire. De cette faveur si grande de la part de Dieu, faire connaître sa parole de la manière la plus large qui soit possible.
Souligner aussi le comment, c'est pas seulement de ce que tu as reçu, ce n'est pas une somme de vérité, mais c'est la manière dont on la reçoit. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose du premier amour qui s'est éteint? Le comment, c'est l'intérêt pour ce qu'on entend. On peut être très ignorant, mais recevoir avec appétit, comme ça a été exprimé dans la prière tout à l'heure, ce qui est donné par le Seigneur. Souviens-toi comment on a dans Luc 8, au verset 18, la même expression dans la bouche du Seigneur. Prenez donc garde, comment vous entendez? Car à quiconque a, il sera donné, à quiconque n'a pas, cela même qu'il paraît avoir, sera ôté. Quel tableau de Sardes, ce qu'il paraît avoir, apparence de vie, la mort. Pourquoi? Parce que le comment n'a plus été réalisé. Peut-être les vérités sont là. Il y a encore des professeurs de théologie, il y a encore des personnes qui pourraient exposer la vérité, mais est-ce qu'elle est réellement reçue et appréciée dans les cœurs?
Ce que tu as reçu, c'est la grâce de Dieu. Ce que tu as entendu, c'est la parole de Dieu. Et certainement qu'au jour de la Réformation, ça a été comme une véritable révélation de la grâce de Dieu et de la parole de Dieu. Mais en effet, il n'est pas seulement dit ce que tu as entendu, ce que tu as reçu, mais comment. Il y a donc eu un temps où la grâce de Dieu a été reçue avec avidité, en contraste avec ce joug intolérable des œuvres sous lequel on plaçait les âmes précédemment. Il y a eu un temps où on a entendu la parole de Dieu avec avidité, alors que précédemment on interdisait la lecture des Écritures, et celui qui la lisait le faisait au péril de sa vie. Il y a donc eu un temps où on a reçu la grâce, on a entendu la parole avec avidité et avec intérêt. Et maintenant, voici l'appel qui est adressé. Souviens-toi comment tu as reçu, comment tu as entendu. Et j'aimerais, dit le Seigneur, que aujourd'hui tu reçoives à nouveau la grâce comme tu l'as reçue précédemment et que tu écoutes ma parole comme tu l'as écoutée précédemment.
Il nous est certainement difficile d'apprécier le don que le Seigneur nous a fait par ce moyen de la réformation. Nous qui jouissons de la parole de Dieu depuis notre enfance, pouvons-nous nous représenter tout le Moyen-Âge privé de cette parole, enchaînés dans les monastères, et pour cause, car on l'a bien souvent relevé, le ministère de la parole et le clergé ne peuvent pas marcher ensemble. Elle condamne celui-ci. Le ministère de la parole, ministère d'autorité, quand elle est reçue dans son ensemble, ne reconnaît pas de clergé. Celui-ci, du reste, c'est la paralysie de l'action de l'esprit. Pas moins que cela. Alors, où en arrive-t-on quand on est privé de la parole de Dieu? Dans l'Ancien Testament, un seul peuple la possédait, et tous les autres peuples, où sont-ils arrivés? Nous savons bien qu'Israël, bénéficiaire des oracles, ne les a pas gardés, mais ils en étaient quand même les possesseurs. Nous pouvons remarquer, déjà dans le psaume 119, le prix de la parole. Je ne cite que deux choses. Au verset 105, c'est la lumière. Ce n'est que quand la parole de Dieu est sortie par le moyen des réformateurs, et cela à quel prix? C'est par millions que l'on compte les victimes qui ont été sacrifiées pour ce don précieux que Dieu nous a fait à ce moment-là. Dans le verset 105 du psaume 119, c'est la lumière. En effet, sans la parole de Dieu, nous sommes plongés dans les ténèbres. Elle est la lumière parce qu'elle est le témoignage de celui qui est la lumière. Il l'a dit lui-même, les Écritures rendent témoignage de moi. Et il a dit de lui-même, je suis la lumière. La lumière, la vie sont liées à la personne du Seigneur et tout cela nous est révélé par la parole. Le psaume 119 dans son verset 111 nous la présente comme étant un héritage, chose souhaitée, chose qui est précieuse. Nous pouvons lire chacun tout le psaume 119 qui met en relief la valeur de la parole. Et ce qui nous est demandé à nous, c'est de la garder. De la garder. Et de ne pas y introduire des innovations. Au contraire, elle nous exhorte, cette même parole, à revenir toujours à ce qui était dès le commencement. La raison en est fort simple, c'est que la parole de Dieu est immuable, elle est éternelle, ne supporte aucune addition ni aucune soustraction. Elle est parfaite. La volonté de Dieu qu'elle exprime est bonne, agréable et parfaite. Donc l'exhortation est bien pour nous de garder cela. qu'il y a la tendance aujourd'hui dans le monde et même parmi nous, il faut l'avouer, on aimerait des choses nouvelles. On veut additionner. On veut additionner à ce que Dieu a institué. L'assemblée est une plénitude aussi dans un sens. Elle suffit. Pourquoi additionner? Pourquoi inventer des choses à côté? La parole est suffisante. Elle est complète, elle est parfaite. Elle vient de la bouche même et du cœur de Dieu. Nous avons à nous incliner devant elle avec louange, respect et avec la plus grande révérence que nous lui devons.
L'apôtre Paul donne aussi une instruction très importante à son fils Timothée dans sa deuxième épître au chapitre 3 et au verset 14. Il peut dire, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises. Nous venons d'entendre l'importance de garder la parole, de demeurer en elle. Eh bien, nous avons cette même exhortation ici. Et puis, il ne suffit pas d'entendre la parole, il faut encore vraiment la prendre, la serrer dans nos cœurs, la mettre en pratique. Et pour cela, il faut aussi en être pleinement convaincu. C'est très important pour nous tous et pour les jeunes en particulier de non seulement entendre la parole, de non seulement la recevoir, mais d'être pleinement convaincu que ce que la parole nous dit doit avoir tout son effet sur nos cœurs. C'est Dieu qui nous parle. Ici, il est dit, sachant de qui tu les as apprises. Eh bien, que nous aussi, nous nous rappelions ces choses. Ce n'est pas un frère seulement qui nous présente la parole, qui nous enseigne, mais c'est Dieu qui, par son esprit, veut nous donner de recevoir les choses, d'en être pleinement convaincus, et puis de savoir que vraiment, ces choses viennent de lui.
Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, nous avons également l'image du voleur. L'apôtre Paul en a parlé dans le passage cité. L'apôtre Pierre parle du jour du Seigneur qui viendra comme un voleur. Et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant. N'est-il pas frappant de voir que le Seigneur à Sardes se présente venant comme un voleur sur toi? Ce n'est pas du tout la venue du Seigneur en grâce. Le Seigneur viendra pour chercher son Église, pour l'enlever de la terre. Tandis qu'ici, il est dit sur toi. Comme s'il était dit, je fondrai sur toi, c'est le juge, c'est le juge. Comme un voleur dans la nuit qui fond sur ce qu'il veut voler, eh bien, Seigneur, ainsi fondra sur Sardes, sur l'Église, professante à la fin des temps. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Cela pour le monde. Ainsi l'Église est comparée au monde, à Sardes. Elle est devenue comme le monde. Elle ne mérite rien d'autre chose que cette venue du Seigneur tel qu'un voleur dans la nuit. Tandis que dans l'évangile selon Luc, où il est parlé du voleur, également en rapport avec la vigilance, la pensée est différente. Il est dit en Luc 12, au verset 39e, « Sachez ceci, que si le maître de la maison eût su à quelle heure le voleur devait venir, il eût veillé et n'eût pas laissé percer sa maison. Vous donc aussi, soyez prêts. À l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. » Il importe d'établir les différences existant ces passages. Nous avons donc notre passage, Apocalypse 3, 1 Thessaloniciens 5 a été cité, 2 Pierre 3, où il s'agit du Seigneur venant en jugement. Il vient pour juger le monde, il vient pour juger également son Église infidèle. Terrible jugement dont parle le livre de l'Apocalypse en nous parlant de la Grande Babylone. Mais ici, en Luc 12, le voleur, c'est le diable lui-même. C'est celui qui cherche à nous nuire, c'est celui qui veut percer notre maison. C'est l'activité du diable, il ne s'agit plus du tout du Seigneur. Il y a donc une différence du tout au tout entre Luc 12, en rapport avec le voleur, et les trois autres passages.
Le voleur porte plusieurs caractères, d'abord, par définition même. Il enlève quelque chose, il enlève un trésor. Puis il est inattendu, il prend par surprise, et il est indésirable. Inattendu, on pourrait dire, mais le Seigneur vient, nous ne savons pas quand. Mais dans inattendu, il n'y a pas seulement le fait d'être pris par surprise, mais le fait de ne pas